toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, on vous embarque sur le continent africain avec une collection documentaire formidable diffusée depuis le 11 juin par la chaîne Arte. Ça s'appelle Génération Africa. 25 documentaires tournés par de jeunes cinéastes du Sénégal, du Nigeria ou encore du Soudan et qui racontent l'Afrique d'aujourd'hui. Bonjour Fabrice Puchot.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'unité Société et Culture sur Arte France. Et c'est une idée incroyable et d'une ambition assez folle qui a été initiée, je crois, par un producteur sud-africain, Steps.
Oui.
À quel moment vous êtes arrivé sur le projet ?
Alors, Don Atkins, puisqu'il s'agit de lui, associé à Tiny Membwe, ont travaillé sur ce projet depuis longtemps. Don est un producteur en qui nous avons grande confiance, qui a fait un immense travail depuis les années 90 sur le cinéma documentaire africain. C'est un homme engagé par ailleurs. Et il a lancé un appel à projet sur toute l'Afrique subsaharienne, francophone et anglophone. Il a reçu un grand nombre de projets, puis peu à peu, par un système d'incubateurs, il a sélectionné des projets et il est venu nous voir il y a maintenant 3 ans de cela pour nous proposer cet objet étrange, 25 films de jeunes réalisateurs, de gens que nous ne connaissions pas, produits et réalisés par des Africains de tous ces pays.
Alors on en reparlera avec vous en fin d'émission, Fabrice Puchot, de Génération Africa. C'est une collection, mais ça pourrait presque se voir comme une série documentaire sur l'Afrique d'aujourd'hui. Mais pour commencer l'émission, une autre série de fiction, celle-là. Bonjour Olivier Assayas.
Bonjour.
Votre série Irma Vep est diffusée sur OCS. Le premier épisode est disponible depuis ce mardi. Les 3 premiers ont été montrés en avant-première mondiale au Festival de Cannes. C'était il y a 3 semaines. Alors Irma Vep, c'est l'anagramme de vampire. Irma Vep, c'est l'héroïne surtout d'un mythique feuilleton muet de Louis Feuillade, 1915, donc une criminelle en juste au corps, noire, qui fait régner la terreur sur Paris. C'est aussi l'héroïne, Olivier, de votre film de 1996, avec Maggie Cheung, et l'héroïne en 2022, cette fois-ci incarnée par la star Alicia Vikander, de cette nouvelle série, 8 épisodes de 50 minutes environ chacun. Alors vous en êtes le concepteur, scénariste et réalisateur. Et on est ravis de vous recevoir, de vous accueillir dans l'émission, d'autant plus que vous êtes en train de finaliser, je crois, les 4 derniers épisodes de la série. C'est un rythme un peu fou, non ? Parce que d'habitude, les séries, je crois qu'elles sont tournées et montées en même temps.
Bah oui, disons que tout ça s'est fait un peu en dépit du bon sens et dans des délais qui effectivement ne correspondent pas et dans une logique qui ne correspond pas à celle des séries, puisque j'ai écrit l'intégralité du long film. Je l'ai réalisé également, etc. Mais surtout, j'ai été contraint à le faire dans des délais qui étaient ceux que m'a imposé HBO, parce qu'ils avaient depuis 2 ans une date de diffusion qui était arrêtée au 6 juin 2022. C'était un peu à prendre ou à laisser. J'ai pris, mais je pense que je ne prendrai pas 2 fois.
Alors Olivier Assayas, avant même d'entrer dans le vif du sujet, on aura compris que cette Irma Vep, c'est un infernal jeu de poupées russes qui fait un peu miroiter le vrai et le faux, le documentaire croqué à vif et des références, en tout cas de la fiction ultra référencée.
C'est aussi sur le temps, quoi. C'est comment le passé nourrit le présent, ou comment le présent se nourrit du passé, et comment on revit cycliquement toujours la même histoire, et toujours aussi un petit peu différente. Et je crois que c'est une source de réflexion, mais j'ai envie de dire, c'est avant tout une source de comédie aussi dans ce film.
Et quand la série commence, on est dans le Paris des années 2020, le cinéaste René Vidal entame le tournage de la série Irma Webb, donc hommage au vampire de Louis Feuillade. René Vidal, c'est Vincent Macaigne, et son Irma Webb, je le disais, c'est Alicia Vikander.
Now shut my gun. Oh. Yes. Now jump on him. Yeah, with both feet. Jump on him.
Renee, I have heels on. I can't jump on him.
No, he's dead. He doesn't feel nothing.
Is it true you'll be shooting a remake of a French silent film?
That is true. I'll be Irma Webb. Renee Vidal is directing.
Renee is nuts.
He's nuts in a good way.
Il faut avoir peur, là. Moi, j'ai pas eu peur. Mais là, l'épisode s'appelle la tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée.
I'm so sick of being the superhero. I don't need a hit, I need a good movie.
Are you gay?
I was, but not anymore. I got bored with gay culture. They're all communists.
How do you handle all the girls around you?
I loved you, and then you cheated on me with Laurie.
Laurie played you like a puppet. She ended up getting what you wanted.
I must have been the last person to find out about you and Herman. Because you're scary, and you scared me. Am I that dangerous?
You are Irma Webb for me. So yes, you are dangerous.
This is not my world. Paris, Renee, Irma Webb.
Vous pensez que je dois faire ce film?
Puis je vous rappelle qu'il s'agit d'une série.
Non. C'est un film, certes un peu long, qui est divisé en 8.
Si vous le dites.
Bon, descendez-moi, merde! Cambre-toi.
Les voix, entre autres, de Vincent Macaigne, Alicia Vikander, Lars Edinger dans la bande-annonce d'Irma Webb. Alors, Olivia Sayas, je ne sais pas s'il faut en parler comme d'une série ou d'un long film. Je cite Vincent Macaigne dans le film, je ne sais pas. En tout cas, c'est une comédie de tournage étourdissante. C'est une envie que vous aviez depuis... C'est un genre très particulier du cinéma?
Disons que cette comédie, je l'avais déjà faite en faisant l'Irma Webb d'origine dans les années 90. Pour moi, la question, c'était plutôt comment je pouvais déployer les thèmes qui étaient condensés dans un film à petit budget.
C'est ça, parce que Irma Webb, c'est une esquisse très centrée sur le lien entre le cinéaste, enfin, le réalisateur et son actrice.
Oui,
là, on a tout.
Disons que là, à partir du moment où j'ai eu la proposition de... Parce que c'est un film, au résultat, c'est un film qui est entièrement américain, quoi, qui est produit par A24, financé par HBO, diffusé par HBO. À partir du moment où ils m'ont donné une sorte de carte blanche en me disant, si vous déployez Irma Webb dans une liberté absolue, on vous suit où que ça mène. Bon, c'était pas exactement exact. Je pense qu'ils m'auraient pas suivi littéralement n'importe où. Ils ont quand même un peu supervisé l'affaire. Mais enfin, néanmoins, ils m'ont donné une immense liberté que, d'abord, qu'on n'a pas en général dans les séries. Et puis, d'une certaine façon, la question que vous posez et qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce que c'est une série, c'est pas une série, c'est du cinéma, c'est pas du cinéma. Honnêtement, je sais pas que je m'en fiche, mais je suis incapable d'y répondre. Je veux dire, est-ce qu'un film au-delà de 3 heures, on dit que c'est une série, peut-être, je sais pas. Pour moi, c'est qu'une question de durée. J'ai tourné de la même façon dont je tourne mes films, avec la même équipe, avec des acteurs semblables auxquels je donnais la même liberté que je peux leur donner sur le plateau de mes autres films. Et au résultat, ça me donne la possibilité, moi, de déployer des thèmes sur pratiquement 8 heures de film.
Oui, c'est ça, ça fait sauter le verrou du temps.
En réalité, ça fait sauter le verrou du temps et les disputes sans intérêt qu'on a régulièrement avec les producteurs qui sont
sur les 3 heures de budget, sentimentales.
Et qui sont des débats qui ne sont pas intéressants parce que très souvent, la durée, elle est organique à certains films. Certains films se racontent vite, d'autres se racontent plus lentement. Il y a une logique, mais la logique de la distribution des films fait qu'il vaut mieux que le film fasse 2 heures, sinon on perd une séance dans la journée, etc. Mais on n'est pas au cœur du débat sur le cinéma.
Mais là, c'est les Américains qui sont venus vous voir pour vous proposer de reprendre Irma Webb et d'en faire une série ?
C'est à peu près ça. C'est-à-dire, en tout cas, il y avait la demande, il y a une proposition de faire une série avec A24, qui est un des meilleurs producteurs, un des distributeurs indépendants américains, qui voulait vraiment qu'on travaille ensemble. Et on s'est mis d'accord sur Irma Webb parce qu'on pensait que c'était le sujet qui, moi, me donnait le plus de liberté. Et puis surtout, qui me permettait de... Non pas tellement de mettre en abîme mon propre travail, mais plutôt d'intégrer les strates historiques qui mènent à au contexte dans lequel je fais mon travail. C'est-à-dire de donner à la fois au personnage, à mon art, une histoire, un recul, une perspective, et même, j'ai envie de dire, une multiplicité de perspectives. C'est ça que me permet le temps dont je dispose.
Parce que c'est presque un palais des glaces. Enfin, et c'est vrai que vous parliez de mise en abîme en disant, pour évacuer, en disant que ce n'était pas tant ça qui vous intéressait, mais en même temps, c'est vertigineux.
C'est-à-dire qu'on est perdu. Il y a des moments, la drôlerie vient du fait qu'on ne sait plus si on est dans le présent, dans le passé, si c'est Feuillade qui tourne, si c'est moi qui tourne.
Parce qu'on voit les images d'origine, donc du feuilleton de 1915-1916. On voit les mêmes séquences sous un autre angle tournées par le réalisateur René Vidal, votre double, Vincent McKaigne.
Oui, un peu plus névrosé que moi, néanmoins, et plus drôle que moi, mais Vincent s'est beaucoup amusé avec ça. Enfin, il s'est beaucoup amusé à m'imiter.
Il y a un jeu sur les images, effectivement, qui s'interpénètrent ou qui se répondent.
Elle dialogue, mais beaucoup de choses dialoguent dans le film. Je me suis toujours intéressé au cinéma en tant que lieu où on peut faire dialoguer des choses qui n'ont pas nécessairement vocation à se rencontrer. C'est quand j'ai fait Irma Vep, je me suis dit, au fond, je fais rencontrer Jean-Pierre Léo et Maggie Cheung, c'est-à-dire deux histoires du cinéma qui se sont déroulées en parallèle et qui se collisionnent dans mon film, ça produit une étincelle. Ici, j'ai la possibilité de refaire se rencontrer ce que je préfère du cinéma indépendant français d'aujourd'hui, Vincent McKaigne, Jeanne Balibar, Nora Hamzaoui et d'autres, avec une star du cinéma américain qui est Alicia Vikander, une star du théâtre allemand qui est Lars Eidinger. Et au fond, j'ai l'impression de passer mon temps à frotter des silex pour produire des étincelles.
écoutez tous les cinémas du monde avec nos deux invités, Fabrice Puchaud d'Arte France et Olivia Zayas pour sa série Irma Vep. Alors on vient d'entendre Ya Habibti de Mnou Mokhtar, c'est la musique du générique d'Irma Vep, un générique vraiment très très réussi, croqué façon BD avec quelque chose de très rock, vif, rapide et qui préfigure vraiment bien l'esprit
de
la série.
C'est en général, je réfléchis pas trop au générique de mes films avant de les faire, ou au moment, etc. Mais là, j'avais l'impression que du fait du format, c'est-à-dire du côté récurrent, etc., il fallait trouver quelque chose qui unifie et qui donne et puis surtout, justement, là où il s'agit de parler de cinéma, de parler du monde, il y a quelques idées abstraites qui se baladent. Je trouvais ça bien de poser l'aspect à la fois ludique et l'énergie de la musique malienne, celle de Mnou Mokhtar en l'occurrence.
Mais du coup, c'est un peu un défi, non ? Parce que le projet, il est assez colossal. Vous avez une star américaine. Non, pas du tout.
Si. je vous le confirme.
Beaucoup de figurants. Non, mais j'imagine que justement, préserver cette. Enfin, c'est. Vous disiez dans une interview que le premier Irma Vep, vous l'aviez tourné avec zéro franc, zéro. On est carrément dans quelque chose de beaucoup, c'est
bien
presque
sûr.
Une super production, donc ça peut être aussi un piège si on veut garder cette légèreté.
Alors, j'ai travaillé à la fois dans des conditions confortables, c'est-à-dire que, en effet, personne ne m'a embêté sur le budget du film ou sur sa durée. J'ai eu aucun débat avec mes producteurs, mais par contre, j'ai eu des débats féroces sur les délais. Donc, si vous voulez, la réalité, c'est que ça a été un des tournages les plus difficiles, les plus durs, et surtout la post-production la plus difficile, la plus dure que j'ai eue sur mes films, parce que même dans les films les plus fauchés, on n'est pas obligé de travailler aussi vite que ça. C'est-à-dire que là où, effectivement, le tournage d'Irma Vep était minuscule, derrière, j'avais le temps de le terminer. Là, c'était un tournage énorme et je pensais que ça allait être écrasant. Je pensais que ça allait être le plus dur. Je me suis dit, quand j'ai fini le tournage, je me suis dit, c'est incroyable, j'ai tourné 106 jours, c'est vraiment une prouesse. Maintenant, c'est cool. Absolument pas. C'est le tournage qui était relativement cool. Tandis que les finitions, on a eu des temps mais dérisoires. On avait à peine 2 semaines pour monter un épisode d'une heure.
Alors que d'habitude, c'est quoi ? On a plusieurs.
Oh, bah, disons que pour monter un long métrage, on a 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines. Enfin, c'est pas l'enjeu, parce qu'en général, il n'y a pas justement cette date butoir de la diffusion, en tout cas,
sauf
si elle est pensée.
Sauf quand il y a une sélection à Cannes.
Sauf quand il y a une sélection à Cannes, oui, en effet.
On le disait, Irma Vep, donc c'est un long film.
C'est un film qui a un début, un milieu, une fin et qui est effectivement diffusé en épisode parce que on peut pas regarder un film de 8 heures en une seule fois quoi.
Encore que
ça puisse être recommandé éventuellement.
C'est un film de tournage, mais c'est surtout un portrait du cinéaste face à ses doutes, ses désirs, ses angoisses, son inconscient et puis surtout ses fantômes.
Bon, en ce moment, voilà, je. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai une sensation d'angoisse, mais horrible.
Ça ne m'étonne pas.
Pourquoi ça ?
Parce que vous refoulez trop de choses.
Je vois pas de quoi vous voulez parler.
Vous avez déjà fait une version de Irma Vep ?
Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. C'est un film à très petit budget. Oui, c'était à très longtemps. C'est vraiment derrière moi.
Et vous le refaites ? Ça vous est déjà arrivé avec d'autres films ?
Non, jamais.
Ça veut bien dire que vous n'êtes pas en paix avec ce film ?
Si, enfin, je suis en paix, c'est-à-dire que c'est totalement autre chose. Voilà, c'est...
À une importante différence près.
Pardon, hein, je vois pas. Est-ce que je pourrais avoir un petit indice ?
Jade Lee.
Oui, Jade Lee, oui, et alors ?
Nous lui avons consacré plusieurs séances.
Oui. Oui, ça va, un mariage raté.
Combien d'années avez-vous été marié ?
Oh, 5 ans, peut-être un peu plus.
Et comment vous étiez-vous rencontré ?
Ah, pardon, excusez-moi. Pardon.
Comment vous étiez-vous rencontré ?
C'était sur le tournage d'Irma Vep, elle jouait le rôle principal.
Et vous étiez très amoureux d'elle ?
Fou amoureux d'elle.
Et ensuite ?
Bah, ça s'est délité. Et puis, un jour, c'était fini.
C'est vous qui avez décidé que c'était fini ?
Non, c'est elle.
Face à face, Vincent Macaigne, Dominique Raymond, donc le réalisateur face à sa psychanalyste, tout tient dans les silences. C'est une scène qui se tient sur un fil très ténu parce que c'est à la fois comique et déchirant. Oui. Et d'autant plus déchirant qu'on va voir, alors évidemment c'est la référence, c'est justement le film que vous avez tourné, Olivia Sayas, avec Maggie Cheung en 96. Et on va voir des images de ce film.
Oui, enfin, là, il faut rendre justice au talent de Vincent Macaigne. Enfin, je trouve qu'il a fait un travail, mais extraordinaire, quoi. Enfin, sur ce film, je trouve que justement dans une scène comme celle-là, qui est vraiment entre la comédie et puis évidemment quelque chose de beaucoup plus profond et de plus douloureux ou émouvant, il arrive à trouver la note juste et j'ai envie de dire presque miraculeuse, quoi. Enfin, j'en attendais pas tant. C'est vrai que oui, là, encore une fois, je me mets en scène un peu moi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis lancé dans cette entreprise, c'est-à-dire de me dire, voilà, qu'est-ce que c'est de refaire aujourd'hui un film qui dialogue avec le cinéma muet, qui raconte l'histoire d'un personnage qui traverse l'histoire du cinéma, et puis comment se collisionnent les différentes modalités, les différentes formes du cinéma contemporain. Je me suis rendu compte que j'étais un peu coincé, quoi. C'est-à-dire que j'étais obligé d'admettre que j'étais un des protagonistes de cette histoire. C'est-à-dire que quand je faisais le Irma Webb d'origine, je dialoguais éventuellement avec Louis Feuillade. Dans cette série, je suis obligé de dialoguer. Je dialogue avec Louis Feuillade, mais je dialogue aussi avec moi-même. Il y a 25 ans ou 24 ans, je sais plus, faisant Irma Webb. Et donc, je peux pas évoquer ce film-là en le détachant de ce qu'il a pu représenter dans ma vie personnelle. C'était le film après l'eau froide, disons, un an après l'eau froide, m'a donné une reconnaissance internationale qui est celle grâce à laquelle j'ai pu faire les films que j'ai fait par la suite. Et puis je me suis marié avec Maggie Cheung, j'ai vécu longtemps avec elle. Donc Irma Webb est au croisement entre la vie et le cinéma pour moi d'une façon qui devient qui appartient au sujet de la série. Donc effectivement, je me retrouve otage de mon propre film, otage de ma propre histoire, et au fond avec l'injonction de rendre des comptes à la fois au réel et au cinéma.
Vous l'aviez revu Irma Webb depuis 96?
Oui, j'aime pas du tout revoir mes films, comme aujourd'hui, il faut les restaurer en numérique.
Ah oui.
Donc j'ai été un peu contraint et forcé de non seulement de le revoir, mais de retravailler dessus pour une édition Blu-ray à venir, enfin, qui est déjà sortie aux États-Unis, un peu partout dans le monde, mais pas encore en France.
Et du coup, le fait de faire dialoguer donc les images des vampires de 1916, le Irma Webb de 96, et puis donc cette histoire de tournage, c'est aussi une façon de montrer, ou peut-être, je ne sais pas, c'est pour faire réfléchir aussi ou susciter l'émotion du spectateur devant le fait que le cinéma, c'est une manière aussi de fixer le temps.
Oui.
Et il y a une véritable émotion même à voir ces acteurs de 1916, en fait, morts depuis bien longtemps.
Les acteurs du passé, le cinéma du passé est une sorte de purgatoire qui est habité par des fantômes. Au fond, quand on regarde les films du cinéma muet, on sait que ces gens, qu'on voit la survie de personnes disparues. Et le cinéma, il parle quand même beaucoup de fantômes et il en suscite d'autres, comme la fiction, comme la littérature ou la poésie d'ailleurs, mais de façon plus littérale dans le cinéma, parce qu'il s'agit de y a des images, il y a de l'incarnation.
Il y a du mouvement, évidemment.
J'ai eu un certain trouble. Quand je suis arrivé au 8e épisode, que vous n'avez pas encore vu, parce qu'il n'y a que le premier qui est sorti, mais quand j'arrive au 8e épisode, de la familiarité que j'ai construite avec certains des personnages de Feuillade. Parce que, entre parenthèses, Feuillade, ça se raconte très mal. Enfin, c'est très difficile à raconter quand ça s'intègre dans un fil narratif qui est quand même relativement classique, puisqu'il il y a des contraintes de crédibilité, d'intelligibilité qu'impose la télé. Là, pour le coup, je suis obligé, encore une fois, de rendre des comptes à ça. Mais pour pouvoir être intelligible, j'étais obligé de reconstruire par moments feuillades. Donc il y a beaucoup de moments où je me sers des vampires littéralement comme des roches d'un film que je reconstruis au fur et à mesure pour en simplifier le déroulement ou pour en mettre en avant la beauté, la poésie, le mystère, parce qu'il y a tout ça, en plus du roman feuilleton dans l'œuvre de feuillade.
Alors on va parler de René Vidal. Donc Vincent Macaigne, ce cinéaste qui vous ressemble un peu, voire beaucoup. Lui, il est le seul à croire au film qu'il est en train de tourner. Tous les autres doutent autour de lui, c'est le moins qu'on puisse dire, à commencer par l'acteur principal. Autant de feuillades, on aurait dit le jeune premier du film. J'ai nommé Vincent Lacoste.
C'est n'importe quoi, là. René ! Il manque une scène pour exprimer le deuil de Philippe. Varfait est l'amour de sa vie, c'est pour ça qu'il va traquer les vampires. C'est sa motivation.
Mais écoute, on a très bien compris tout ça, y a pas besoin de scène là, enfin.
Mais non, sans cette scène, c'est incohérent.
Mais écoute, je suis navré, mais la personne qui dit ce qui est cohérent ou pas sur ce plateau, c'est moi. Voilà.
Mais j'ai besoin d'une motivation.
Edmond, la prochaine fois que je t'entends prononcer, ne me touche pas. Ne me touche pas, parce que là, vous m'énervez, là. La prochaine fois que je t'entends prononcer le mot motivation, je t'étrangle. De mes mains.
Alors, cette scène va mal se terminer pour les deux. Alors, en fait, c'est un peu un motif récurrent du film. Hein, l'acteur qui exige des explications psychologiques sur son personnage. Je veux qu'on parle de mon personnage. C'est un peu la malédiction de René Vidal. Est-ce que c'est un peu la vôtre aussi, Olivier Assayas?
C'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire que je le vois à la fois comme une malédiction et un bienfait. Je dis ça dans le sens où, au fond, un acteur, il est à mi-chemin entre lui-même et un personnage de fiction. Et donc, d'une certaine façon, Vincent Lacoste, que j'adore et qui est très drôle dans le film, enfin, qui a beaucoup d'inventions et d'humour et de finesse, il joue le rôle d'un acteur qui défend son personnage, parce que son personnage est une partie de lui-même. Donc, contrairement à ce que vous dites, il y croit. C'est parce qu'il y croit qu'il se bat. Il se bat sur un mauvais terrain.
Il se bat littéralement.
Dans la mesure où, très souvent, c'est vrai, souvent quand je travaille avec des acteurs américains, il y a cette question où les acteurs tannent avec cette idée de motivation. Je pense qu'il n'y a pas de motivation chez un acteur. Il y a des scènes. Un film, c'est des moments, c'est des scènes, et c'est de l'invention qui se crée sur le tournage et qui s'invente et qui ne se définit pas. Pour moi, ce côté motivation, c'est les mots quelquefois qu'on met sur la psychologie du personnage. Et moi, il n'y a rien qui m'intéresse moins que la psychologie du personnage. Et je me méfie terriblement des mots. Je déteste les mots sur les tournages. Et le moins j'arrive à parler aux acteurs, et plus je leur donne d'espace pour qu'ils inventent et qu'ils réimaginent ce que j'ai écrit, le mieux je me porte. Je veux surtout pas entendre ce que j'ai écrit. J'ai envie d'entendre quelque chose de beaucoup mieux que ce que j'ai écrit, et c'est cet espace-là que je donne aux acteurs, et ils le prennent ou ils le prennent pas. Et des fois, quand je suis irrité sur les films, ce qui m'arrive relativement peu, parce que je suis pas complètement René Vidal, mais quelquefois je peux manquer de patience avec ces demandes de mots. Les je veux pas les donner, les mots.
Et on l'a un peu abordé dans cette série Irma Webb, toute une mise en scène donc des coulisses du cinéma. Parce que là, effectivement, il y a l'acteur donc, qui demande des explications, mais il y a le rôle de la costumière, c'est Jeanne Balibar. Ouais. Il y a un peu tous les métiers du cinéma à qui vous avez confié à des plus grands acteurs, même le Antoine Reynards qui joue le chef opérateur. Enfin bon, il y a tout un jeu aussi.
Et puis il y a une scène aussi incroyable avec Pascal Grégory qui joue en fait le patron d'une entreprise de luxe. Voilà. Dont on comprend qu'il a plus ou moins financé le film.
C'est-à-dire qu'il est le patron d'une grosse entreprise de luxe, d'un groupe de luxe, et il a des enjeux financiers énormes dans le lancement d'une ligne de parfum. Et donc en réalité, il finance cette série parce qu'il tient absolument à ce que sa star, qui joue Alicia Vikander en l'occurrence, soit l'égérie de ce parfum. Alors ça donne lieu plutôt à des scènes de comédie qu'à autre chose, mais néanmoins ça raconte quelque chose sur la façon dont aujourd'hui le financement de cinéma se redéfinit et la place du cinéma dans la hiérarchie financière du monde des images.
Voilà. Et puis il y a aussi Il y a aussi tout un jeu sur la circulation des images, comment on les voit aujourd'hui, parce que les vampires de 1915, on peut les voir plein écran, mais on les voit aussi surtout circuler sur des micros,
sur des iPhones,
de téléphones portables. Puis il y a aussi cette phrase, de l'agente d'Alicia Vikander, qui est jouée par Carrie Brownstein. That's what people want. C'est ce que les gens veulent. High concept feminist. Vous allez traduire, Olivier Sayas. High concept feminist lady-led superhero movies.
Oui,
c'est un peu une lettre d'amour au cinéma au moment où il traverse une grande crise existentielle, Irma Vep.
C'est-à-dire que c'est un film sur le chaos du cinéma, une période où le cinéma est en chaos. Aujourd'hui, on se pose 1000 questions sur le financement du cinéma, sur la façon dont on le regarde, sur son statut par rapport aux autres arts, sur qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui en est pas, et surtout, comment il se finance. Et donc, on est dans un questionnement autour de l'art, autour du flux, autour de... En réalité, surtout dans cette espèce de dialectique de l'art et du flux. C'est-à-dire que le cinéma, à la base, c'est simple. Il y a des salles obscures, on paye un ticket qui nous donne droit à aimer ou pas aimer, à entrer ou ne pas entrer dans un récit qui est l'imaginaire d'un artiste. Et d'une certaine façon, le succès, c'est quand beaucoup de gens viennent et s'identifient à cette... etc. Et l'échec, c'est quand ils ne viennent pas. Alors après, il peut y avoir des œuvres admirables qui sont des échecs et des navets qui sont des énormes succès. C'est d'ailleurs... Souvent le cas.
C'est la loi du cinéma.
Mais néanmoins, c'est une problématique qui est simple. Aujourd'hui, que ça marche, que ça marche pas en salle, n'a pas beaucoup d'enjeux, parce que le cinéma se fait selon une logique où il est financé d'abord de façon beaucoup plus internationale qu'auparavant, et qui se fait selon des financements qui sont des aides, des subventions, des sponsors, et ainsi de suite. En tout cas, une toile, un maillage beaucoup plus complexe qu'auparavant. Donc on se pose des questions. Moi, je les résous à ma manière en disant, à partir du moment où il y a de la liberté, il y a du cinéma. C'est-à-dire à partir du moment où on a le droit de raconter une histoire qu'on veut, on peut mettre les mots qu'on voudra, mais pour moi, ça ne change rien. Je travaille avec les mêmes collaborateurs, j'écris de la même façon. Le fond du débat ne me concerne pas tant que ça. La pensée de ce qui est en train de se passer, par contre, elle me concerne parce qu'elle est en train de profondément transformer l'art que je pratique depuis déjà un moment.
Merci beaucoup, Olivier Assayas. Votre série Irma Vep, donc sur la plateforme OCS depuis mardi dernier, la diffusion du premier épisode, et le prochain, c'est mardi prochain, ça s'appelle La bague qui tue. Vous restez un peu avec nous, Olivier, on se fait sauter de plateforme en chaîne pour parler d'Arte et de Génération Africa, mais avant, on reste dans l'ambiance d'Irma Vep avec Taste. I'm moving on. Go fly too high from a little sky, I'm moving on. Want you, baby, from time to time. Just didn't listen to pain on my, so I'm moving on. I'll soon be gone. Through with you, too bad you're blue, I'm moving on. Engineer, take the throttle in hand, take me back to the southern land. I'm moving on, keep rolling on. You're flying too high from a little old sky, keep moving on. Won't you listen to me? Got a pretty woman in Tennessee. Keep rolling on. Keep rolling on. Goodbye, goodbye, it's all over now. I'm moving on. Someday, baby, when you've had your play, you'll want your daddy, but your daddy will say, keep rolling on. Keep moving on. Why'd you hide in a little sky? I'm moving on. Moving on. Moving on. Vous êtes bien sûr RFI avec nos deux invités, Olivier Assayas et Fabrice Puchaud. Mais d'abord, le journal du cinéma avec vous, Sophie.
Oui, on a appris le décès en début de semaine de Fadika Kramo-Lansiné. Il avait reçu l'étalon du Yenenga au FESPACO en 1981 pour son long métrage « Jelly, conte d'aujourd'hui ».
Ma, e cara giuro intanto non si sa come. Me la mi fornire con.
Jelly, conte d'aujourd'hui, suit le parcours de deux étudiants ivoiriens amoureux. Leurs deux familles, qui pourtant s'entendent bien, s'opposent à cette union en invoquant des traditions ancestrales. Un beau film primé au FESPACO donc en 1981 et qui avait valu à Fadika Kramo-Lansiné d'avoir sa statue sur l'avenue des cinéastes à Ouagadougou.
Alors dans l'actualité en France, Disney prive les spectateurs français de son prochain film d'animation, le film de Noël, Strange World.
Where in the world are we? What in the... We are in way over our heads. I'm not an explorer, I'm a farmer.
Voilà, c'est un blockbuster annoncé, Strange World, qui ne sortira donc pas en salle en France, mais sera diffusé directement sur la plateforme Disney+. La présidente de Disney France tire, dit-elle, hein, les conséquences de la chronologie des médias pratiquée en France, selon laquelle Disney+, qui n'a pas signé le nouvel accord de financement du cinéma français, devrait attendre 17 mois après la sortie en salle pour diffuser un film sur sa plateforme. Ce dispositif, on le rappelle, a pour vocation de protéger les salles de cinéma en leur donnant la primeur de l'exploitation des films. Moralité, en tout cas, c'est ce qu'on a tiré à Disney. Aucune salle en France ne pourra exploiter Strange World. Une décision inacceptable, s'étrangle le délégué de la Fédération nationale des cinémas français. Pour l'instant, la décision de Disney ne concerne pas deux blockbusters à venir, Black Panther 2 et le nouveau film de la saga Avatar, donc deux super productions sur lesquelles justement comptent les salles de cinéma en France pour relancer la fréquentation.
Chaque année, des milliers de migrants échouent aux portes du Sahara dans la ville de Gao, au Mali. Certains sont sur le point de tenter la traversée. D'autres sont sur le retour après un périple harassant. Ils viennent de toute l'Afrique, mais aussi du Pakistan ou encore du Sri Lanka. Ils sont sur le chemin depuis des jours, des mois, voire des années, pour tenter de rejoindre l'Algérie et l'Europe. À Gao, la maison du migrant leur offre un refuge éphémère. J'y ai passé près de 2 ans afin de recueillir leur récit.
Extrait du dernier refuge, un film du Malien Ousmane Samasekou. Donc on l'entend, il a posé sa caméra aux portes du désert à Gao. Fabrice Puchaud, c'est l'un des 25 documentaires de la collection Génération Africa.
Oui.
On parlait tout à l'heure donc, de ce projet que vous avez initié en collaboration avec le producteur sud-africain Steps. Quel tableau ces 25 films donnent du continent africain et surtout de sa jeunesse ?
Bah, ils donnent pas un tableau définitif. L'ambition de cette série, c'est justement de compliquer les visions qu'on peut avoir du monde, de complexifier les visions qui sont vues d'Europe extrêmement figées. C'est aussi pour ça que cette idée de faire travailler 25 cinéastes africains, bah, c'est simplement inverser le point de vue. On regarde plus du haut en bas de la carte, ce qui est déjà symbolique, mais du bas en haut de la carte, et c'est-à-dire du nord, non plus du nord vers le sud, mais du sud vers le nord. Et donc, il ne s'agit pas de brosser un tableau, que les 25 films donnent une image unique, mais au contraire, que chacun de ces films, qui ont tous pour thème les migrations et la jeunesse, nous offre des images comme, comment dirais-je, cubistes, c'est-à-dire qui se complètent les unes les autres, nous offre des images qui puissent bâtir une vision qui ne soit pas univoque. Vous savez, on est... Bon, déjà, l'Afrique n'a pas beaucoup de place sur nos écrans, mais on est aussi abreuvé... Il y a des gens qui ont beaucoup de place, par contre, sur nos écrans, qui nous livrent des statistiques, qui nous parlent de flux. Non, ces gens-là ne sont pas des flux. L'Afrique n'est pas un flux. L'Afrique, ce ne sont pas des statistiques. L'Afrique, ce sont des désirs, des rêves, des hommes, des femmes. Voilà, c'est leur donner une place. Et les individus ne sont pas univoques. Donc, il n'y a pas une seule image. Par contre, ce qu'on y voit, c'est une force incroyable. C'est ça ce qui m'a... Une force de ces réalisateurs et de ces réalisatrices pour faire des films dans des conditions, même si nous avons cofinancé cette série, des conditions difficiles localement, hein, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des zones très difficiles dans lesquelles filmer, mais aussi une force des personnages qu'ils filment, c'est-à-dire cette accumulation qui existe en chaque individu, mais qui là sort souvent de façon éclatante de désir. Voilà. Et le désir est une chose toujours complexe et belle parce qu'il est foisonnant, parce qu'il est réel, parce qu'il est moteur. Et ce qu'on a aimé dans ces films, c'est justement les échecs, les réussites, ce balancement permanent, ces sujets, ces hommes et ces femmes comme sujets, qui définissent leur propre vie dans des conditions souvent difficiles.
Et l'idée, c'est raconter de l'intérieur. C'est-à-dire que ce soit premièrement des cinéastes et deuxièmement des cinéastes du continent.
Tout à fait.
Et c'est... qui racontent ce qu'ils voient dans leur propre pays en général.
Alors ça, c'est une idée absolument essentielle. C'est pour ça que cette collection, pour nous, n'est pas un morceau de télé en plus. Et d'ailleurs, un morceau de plateforme. Parce que vous disiez tout à l'heure, on va passer d'une plateforme à une chaîne. Nous sommes une plateforme.
Aussi, Arte TV. Et d'ailleurs, les 25 documentaires sont dispo sur Arte.tv.
Et une plateforme européenne. Nous sommes une plateforme qui a la chance, pourrait-on dire, d'avoir aussi une chaîne de télé. Mais c'est d'abord aujourd'hui une plateforme qui s'adresse à tous les Européens en 6 langues et qui peut être saisie dans ces 6 langues un peu partout dans le monde. Mais pour en revenir à votre question, ce qui nous importe véritablement, c'est cette notion de point de vue. Et point de vue n'est pas égal à opinion, parce que ça, les opinions voyagent. Mais point de vue, c'est regarder d'un autre endroit. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on met la caméra à un autre endroit, et ben,
ça devient
change.
Plus intéressant.
Et puis tout change. Tout change, nous ne voyons plus les mêmes choses. Et là, je découvre... J'ai l'habitude de voir des documentaires, c'est mon métier. Et j'ai vu des documentaires faits par des cinéastes africains. Mais là, avec Aïcha Maki, je découvre une zone comme ça, une banlieue.
Zinder,
quelque part à Niamey.
Dans l'est du Niger.
Voilà. Et je découvre des individualités que je ne soupçonne pas. Je découvre aussi un rapport à l'histoire et au monde que je ne soupçonne pas. Je découvre une intimité auquel un cinéaste français, aussi valeureux soit-il, n'aura pas accès. Je ne suis pas en train de dire que les films sur l'Afrique doivent être faits par des Africains ou les films sur la France doivent être faits par des Français. Enfin, tout ce genre de choses m'intéresse peu. Mais par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que ça n'est pas la même chose. Et que à cela, Arte, la plateforme Arte, se doit de laisser une place en permanente. Parce que nous sommes la chaîne, justement, où on doit sortir des points de vue trop provinciaux. Considérons l'Europe comme une province et non plus un empire qui domine. C'est la même chose, c'est une réflexion qu'on pourrait adresser à tous. Mais voilà, sortir de ce provincialisme du point de vue pour essayer d'ouvrir.
Merci beaucoup, Fabrice Puchot. Donc, Génération Africa, les 25 documentaires, vous le disiez, sont disponibles
sur la plateforme
arte.tv et 7 sont diffusés à l'antenne à partir d'aujourd'hui.
Voilà, et donc, certains sont en prime time, d'autres en deuxième partie de soirée. On a voulu laisser un espace fort à ces films.
Et certains de ces films, d'ailleurs, je le signale, avaient été. Il se trouve que j'en avais vu à la dernière Berlinale.
Ah, mais ces films ont un parcours, si je puis me permettre d'en faire la publicité, absolument exceptionnel.
Bien sûr.
Parce qu'il y a des réalisatrices et des réalisateurs. Mais incroyable, nous, on a découvert des gens avec qui on va travailler demain. C'est aussi ça, ce projet.
Justement, c'est un projet colossal, en fait, son envergure, par, vous le disiez tout à l'heure, Fabrice Puchaud. Ils ont tourné dans des zones très dangereuses, comme le Nigeria, le Soudan, même Gao, au Mali.
Oui, tout à fait.
Est-ce que ça vous a quand même... Enfin, la difficulté, on imagine, est-ce que ça vous a donné envie, quand même, de persévérer?
Ben non, mais c'est pas que ça nous a donné envie,
vous
c'est qu'on s'est
faire.
Aperçu... Là aussi, c'est une spécificité d'Arte, de sa plateforme, c'est que nous devons porter attention. Notre sujet, c'est la pertinence. Tenter d'interroger le monde de façon intelligente en faisant partager des récits émouvants, des récits forts, des récits troublants et des récits qui donnent du plaisir. Et bien là, tout d'un coup, on trouve des réalisatrices et des réalisateurs. Il y a un fond comme ça, mais c'est merveilleux. On a trouvé des gens qui avaient une patte, qui avaient... En fait, ce qui fait le cinéma aussi, c'est comme la littérature, quelque chose comme du style, c'est-à-dire une façon de poser des questions, non pas de façon purement journalistique, mais de poser des questions avec des images, de poser des questions avec des récits. Et là, on a trouvé des gens incroyables. Et ils ont... Aïcha Maki était au Festival de Reykjavik, mais aussi au FESPACO, où elle a eu le prix de la meilleure réalisatrice. Ike Naboué, avec Lagos Tanger, était à la Berlinale, où il a reçu le deuxième prix, enfin une mention spéciale du prix documentaire. Aknol de Mabior, qui est du Sud-Soudan, Mère de la Nation, à voyage...
Du Sud, oui.
Voilà, était à la Berlinale aussi. Ousmane Samesako a eu le Grand Prix aussi, PH Dogs, donc là aussi dans les pays du Nord. Ces films parcourent le monde, ce qui est une nouvelle exceptionnelle, mais c'est dire aussi la soif que nous en avons et le manque. Je m'excuse, mais encore une fois, on voit trop souvent des commentaires racistes, radoteurs et nostalgiques. Il faudrait peut-être avoir des... tenter d'approcher une image juste de notre réalité, notamment celle de ce continent.
Merci beaucoup Fabrice Puchaud. Donc je le redis, les 25 documentaires disponibles sur arte.tv. Et merci Olivier Assayas d'avoir pris du temps sur la post-production pour venir nous parler d'Irma Vep. 8 épisodes de 50 minutes environ diffusés sur OCS chaque mardi. À partir du mardi 7 juin, au compte-gouttes, hein, pour que les spectateurs ne puissent pas faire du binge-watching. C'est votre choix ?
Ah ben non, je crois que c'est la manière de présenter les films de HBO. C'est-à-dire qu'en fait, ils restent sur la plateforme. Il y a une heure chaque semaine, un jour donné où l'épisode est présenté, et puis après, ils restent. Donc, on pourra le voir en continuité.
Dans quelques temps.
Pour
l'instant, ça feuilletonne.
Dans deux mois. Pour l'instant, ça feuilletonne.
Merci beaucoup, Olivier Assayas. Un salut aussi derrière la console à Mathieu Ray de In The Loop et à Rima Mata d'Arte. Cette émission leur doit beaucoup qu'ils en soient remerciés. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma.
Tous les cinémas du monde sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Lequéré.